12h30 sur Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Vous êtes bien sur Europe 1, la table des bons vivants, c'est tous les samedis de 11h à midi et demi. Philippe Claudel, romancier et écrivain, nous rejoindra tout à l'heure pour le plat du jour. Mais avant, on va s'intéresser à l'anti-gaspi, à la cuisine anti-gaspi. Et vous êtes au courant, depuis le 1er janvier, nous sommes invités à valoriser nos biodéchets. Hein, les épluchures de légumes, les restes de repas, les coquilles d'œufs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le marc de café et tout ça au compost. Tiens, Emmanuel, Olivier, est-ce que vous êtes bons élèves? Est-ce que vous compostez?
À Paris, non. Parce que j'ai pas de solution pour le faire. À la campagne, j'essaye de le faire. Et j'ai un petit composteur au fond du jardin. Je vais y faire un tour régulièrement. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne bien.
Votre composteur. Il n'y a que des bouchons en liège de vin.
C'est de la sueur, c'est bien.
Vous compostez, Emmanuel Rubin?
Non, à Paris, non plus. Et en province, je regarde les autres le faire.
Et c'est obligé, Paris, maintenant, il faut avoir le petit bac. Moi, j'ai un petit bac.
Il y a 10 bacs à Paris. Oui,
et après, ils mélangent tout.
Qui s'occupe déjà des rues, puis je m'occuperai de mon compost.
Il est remonté. Il
est en forme.
C'est l'année Emmanuel Rubin. Alors, ce samedi, on va décomplexer l'anti-gaspi, chers auditeurs. Des astuces, des économies. Mais oui, c'est vrai, sans fausse morale, ni obligation. Et l'anti-gaspi, vous êtes au courant, ça commence en faisant son marché. Alors, allons-y, tiens, justement. Direction là, c'est le marché du Neudorf à Strasbourg. Mélina Fachin, la correspondante d'Europe 1 dans la région, vous a demandé si vous étiez sensible à l'anti-gaspillage. Vos réponses.
Bonjour. J'essaye d'acheter déjà les bonnes doses de façon à ne pas jeter.
Et avec ça.
J'ai acheté des carottes, des blettes, du chou chinois, des clémentines et puis du chou rouge aussi. Je fais des bouillons avec mes épluchures. Congeler aussi. Par exemple, je congèle des produits qui sont de saison et que je pourrais remanger par exemple en hiver, des courgettes.
Une boîte de cises aussi.
Une boîte de cises.
Oui. Okay.
Et même les restes, je tiens, il ne faut pas qu'il y ait des poules, alors tout va chez les poules. Non, je ne jette rien.
Ça fait tout se recycle. Par exemple, sur un brocoli, il n'y a pas que les fleurettes qui se mangent, le pied peut aussi être consommé, les fans de carottes. Sinon, il y a les croûtes de fromage aussi qui se recyclent. Vous pouvez les faire griller au four et ça fait des crackers. Il n'y a rien qui n'est pas consommé en fait.
Oui, j'essaye de ne pas gaspiller, de cuisiner dans les quantités qu'il me faut. J'ai la chance d'être en colocation et de partager avec mes colocs les restes qu'on a. On se fait des gros repas de restes en général.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir, merci.
Bonne journée, messieurs, dames. Et merci, Mélina Fachin. Et merci aux auditeurs d'Europe 1 pour leur bon sens. La dame, elle a raison, il faut acheter les bonnes doses, effectivement.
C'est par là que ça commence. Mais il y a une petite notion, une différence en tout cas, entre ce qu'on pourrait appeler l'anti-gaspi absolu, c'est-à-dire recycler des épluchures,
des fans de carottes.
Des fans de carottes, etc. Et puis ce qu'on pourrait appeler la cuisine de reste ou de fond de frigo, c'est pas exactement
vous avez
la même
raison.
Chose.
Il y en a deux.
Moi, je vous avoue, je suis pas un fan d'utiliser mes épluchures de pommes de terre ou mes épluchures de carottes, j'en fais pas grand-chose.
Ouais, mais il y a des trucs bluffants avec ça. Vous vous souvenez quand Jean-François Piège est venu ici, oui. Il nous a fait une tortilla d'épluchures de pommes de terre, alors des épluchures généreuses avec un petit peu encore de chair sur l'épluchure, et c'était assez bluffant. Ça.
Sonia Esgulian aussi avait fait un bouquin là-dessus, il est façon là. De cuisiner des épluchures.
Oui. Et elle a fait Festin de reste, Sonia Esgulian, qui fait partie de la bande des bons vivants. Festin de reste, 200 recettes anti-gaspi, et c'est paru chez Flammarion, et franchement, elle est très très créative. Et ce que j'aime beaucoup avec Sonia Esgulian, c'est qu'elle rend ludique la cuisine anti-gaspi. Et on recevra d'ailleurs Chef Enzem tout à l'heure pour nous parler là aussi de la cuisine anti-gaspi. C'est un phénomène des réseaux sociaux.
C'est souvent une cuisine qui prend du temps et qui est compliquée. Parce qu'une fois qu'on a des restes, il ne suffit pas on ne les mange pas. Justement, s'ils ne sont pas dans le plat principal.
Il y a un petit malentendu. C'est vrai que la cuisine des restes, dans l'esprit des gens, il faut que ça soit rapide, simple. Alors qu'historiquement, quand on voit le bon sens paysan, faire un fond de volaille, c'est du temps, c'est de la technique. Donc il faut quand même se méfier. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Esgulian et autres sont malins parce qu'ils la désacralisent un peu, ils la décomplexent.
Alors prenons trois plats de saison que les Français adorent, la blanquette de veau, la raclette et le cassoulet. Avec des restes de blanquette, qu'est-ce qu'on peut faire? Olivier, vous avez des idées?
Si on a simplement la viande et la sauce, ça se recycle parfaitement bien. On peut faire quelques pâtes et puis on mélange tout ça, on fait un gratin par exemple. Ça marche très bien. Il y en a qui pourraient faire avec le riz, en mélangeant aussi un petit peu de sauce, des croquettes type arancini. Oui. C'est un peu plus technique, un peu plus compliqué.
Mais ça se fait. Hein.
Mais ça se fait, mais avec des pâtes, ça se mange très
bien. Avec les restes de raclette, moi j'aime faire une croustiflette, je prends des feuilles de pâte philo que je plie un petit peu, du beurre fondu pour que ce soit léger, bien entendu. Oui. J'intercale dans ces feuilles des restes de fromage à raclette. au four et à la sortie, je mets du jambon cru par-dessus, une petite salade verte. Et mais c'est délicieux.
Mais
il y a un côté croustillant. Avec le cassoulet aussi, hein, on peut faire des choses. Hein.
Ah bon?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cassoulet?
Avec les restes de haricots de cassoulet, moi j'ai fait ça une fois, un velouté comme ça qu'on va allonger avec un bouillon et on mixe ça et c'est assez délicieux.
Attention, ça revient fort le cassoulet d'ailleurs. Il va y avoir un championnat du monde qui va être organisé. Ça sera à Toulouse le 15 janvier prochain. 5 chefs qui vont tenter de convaincre un public de 150 personnes. Et c'est là que c'est intéressant, car c'est le public qui va décider du champion du monde et pas un jury d'experts qui est bien souvent aussi expert que moi. 150 personnes qui vont déguster à l'aveugle. Alors, reste à savoir quel cassoulet.
Eh bien oui, parce que là, pour l'instant, c'était Romain
Bras. Et justement, j'ai une question, Laurent, à propos de cassoulet, puisque dans le dernier numéro des petits plats de Laurent Mariotte, que vous trouvez...
Vous avez une bonne lecture.
Bien sûr, que nous trouvons chez nos vendeurs de jambon préférés.
En partenariat avec Europe 1.
Vous avez fait un match qui m'intéresse à Toulouse. Vous êtes allé voir alors, le champion du monde de cassoulet.
En titre, là, qui va le rendre.
Et vous l'avez opposé à l'institution locale, en fait. Et alors, lequel est le meilleur?
Chez Émile, les deux sont très bons. Celui de chez Émile est tomaté, mais j'aime beaucoup celui du champion du monde en titre du cassoulet de Toulouse, de Romain Brard, parce qu'il est très très bien relevé, bien poivré, avec une bonne proportion de saucisses de Toulouse et de confit de canard.
Mais c'est compliqué le cassoulet, hein, parce qu'on dit toujours que c'est le dieu de la cuisine occitane.
Exact.
Mais il y a le cassoulet de Toulouse, qui est le dieu... Dieu le Fils, je crois que c'est Carcassonne, et le Saint-Esprit, c'est Castelnaudary.
Exactement, absolument.
Alors, les deux adresses sont à Toulouse. Hein,
ben
voilà. Romain Brard
je pense qu'il y a de la triche.
Et voilà, on salue les Toulousains qui nous écoutent. Allez, on ne change pas nos habitudes, vous le savez, les amis, chaque samedi, on joue avec un bruit de cuisine. Aujourd'hui, Europe 1 vous offre la machine à espresso Espressa de Séverin, une marque française. Écoutons le bruit de cuisine. Ah, alors c'est pas un moulin à café, hein. C'est pas le presse-purée, c'est pas le presse-légumes. Vous avez trouvé, alors pour jouer avec nous, vous envoyez un SMS avec le mot cuisine au 739-21. 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Et on a vraiment une super machine à espresso. Hein. L'Espressa de Séverin, c'est vraiment le top du top de la machine à espresso à vous offrir.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, nous sommes toujours au courant, même si elle a baissé, l'inflation est toujours forte hein, en ce début d'année. Et on voit apparaître hein, de plus en plus de propositions anti-gaspi. Alors, est-ce que c'est un effet de mode ou une véritable tendance de fond amenée à se poursuivre? On va se poser la question avec la bande, avec un spécialiste du sujet dans un instant. Vous l'avez vu, Olivier Emmanuel, ces slogans. La pomme moche est comme une belle, mais moins chère. Manger, c'est bien. Jeter, ça craint. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? C'est des slogans qui nous incitent à moins gaspiller les fruits et légumes. Vous y êtes sensible, Olivier, à ces slogans?
Mais de toute façon, j'ai toujours considéré qu'en général, les fruits et légumes, quand ils étaient trop beaux, ils étaient trop suspects. Donc, je préfère avoir une tomate légèrement cabossée, qui n'est pas tout à fait harmonieuse en termes de couleur, ou une pomme, c'est légèrement, effectivement, avec une gueule de travers. Je pense qu'en général, c'est plutôt la garantie qu'elle est meilleure.
On veut du goût, on ne veut pas des légumes...
à l'américaine, à la new-yorkaise.
Des long life, ils les appellent comme ça.
Exactement.
Les tomates long life, hein, qui sont là pour supporter
pour 6 mois
le transport.
Ces pommes-là, on a l'impression qu'elles sortent de dessin animé. Quand tu croques dedans, il n'y a pas un goût, c'est de la flotte. Par contre, elles sont d'un vert lustré, d'un rouge... carmin.
C'est ça. Eh bien, on accueille aujourd'hui Nabil Zemouri. Et vous le connaissez, chers auditeurs d'Europe 1, sous le nom de Chef Enzem, un phénomène des réseaux sociaux sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Il est le spécialiste aujourd'hui. Il va vous expliquer pourquoi des recettes anti-gaspi. Bonjour Nabil.
Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir.
Comment on vous appelle, Chef Enzem ou Nabil?
Franchement, c'est vous qui décidez. Après,
Chef Enzem, j'aime bien moi.
C'est bien ça vous.
Ça claque.
Eh bien, ça tombe bien parce que j'hésitais à le changer ça sur les réseaux sociaux.
Je
voulais laisser Nabil Zemouri. Il est temps d'assumer. Un petit peu le prénom d'abord, avant je me cachais, mais là c'est bon.
Eh ben, je vais vous appeler Nabil alors.
C'est vous qui décidez.
Nabil, vous accompagnez les restaurateurs pour optimiser les dépenses des restaurants,
tout
si ça fait partie de votre métier. Et puis vous avez sorti un très beau livre qui s'appelle Extraordinaire, transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire. C'est paru chez Marabout avec des recettes effectivement faciles qui nous aident à renouer avec la cuisine du quotidien et puis à bluffer. Oh, il y a les Remsemen.
C'est bien, belle culture.
Oula, avec
les crêpes marocaines, c'est magnifique, ces petites crêpes feuilletées.
Et là, elles sont farcies au fromage avec une petite farce oignon, menthe, coriandre, cheddar.
L'oignon, la crème.
J'ai mis le cheddar pour être un peu dans l'air du temps, mais c'est vrai qu'on on préférera plutôt qu'un fromage anglais, un bon fromage français, mais voilà.
Crousty crêpe, bœuf aux oignons, gratin de chou-fleur, panzanella. Vous la faites sur Instagram aussi, cette panzanella, avec de la courge. On va écouter ce que vous faites sur Instagram pour qu'on se rende compte un petit peu de vos recettes et puis de votre, de votre façon d'appréhender l'anti-gaspi.
Il va forcément vous rester des chocolats dont personne ne veut, des carcasses de volaille et même des accompagnements. On va pas froisser ceux qui nous les ont gentiment offerts et vu le prix, on peut les faire fondre et en faire un gâteau ou les mixer avec tout ce qu'on aime. Moi, ma technique, c'est de les mixer avec des marrons cuits. Ça va désucrer les chocolats et vous donner une super pâte à tartiner. Là, c'est un houmous de patates douces avec huile d'olive, paprika et œufs pochés. On peut le faire avec des légumes verts, on peut le faire avec des carottes, avec du potimarron ou du butternut. Ça, pour recycler vos légumes déjà cuits, c'est topissime.
Eh ben, on prend Chef Enzem sur Instagram et c'est vrai que c'est malin. Ça, c'est avec les restes de chocolat de Noël, s'il en reste. Mais
s'il en reste, mais bon, on a eu beaucoup d'invités, on a mangé du chocolat au Nouvel An, au Réveillon, en général on est gavé de chocolat, et puis il y a ceux qu'on aime moins, déjà qu'on en a mangé pas mal, il y a ceux qui restent parce qu'on les aime pas, ils ont peut-être de la liqueur, ils ont peut-être de la marmelade d'orange, que sais-je, et ceux-là, on les laisse de côté, ça fait toujours mal au cœur de les jeter, parce que ça nous a été offert gentiment, donc on jette rien, en général, et même des chocolats.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, Nabil, de devenir comme ça un spécialiste de la cuisine anti-gaspi sur les réseaux sociaux?
Alors, deux choses. Il faut savoir que dans tous les restaurants dans lesquels j'ai travaillé avec les grands chefs, déjà, on ne jette rien. Ça veut dire que ça existe depuis la nuit des temps. Un chef, il travaille son produit dans son entièreté. Donc ça, c'est l'éducation, on va dire, de l'excellence à la française des cuisiniers français.
Vous avez raison, premier point. C'est très important. On l'apprend très vite au CAP, ça. Hein.
Tout à fait. Deuxième point, l'éducation des parents. On va pas se mentir, on n'est pas tous tout de suite dans les conditions très favorables, surtout quand on est une famille nombreuse. Donc il faut pouvoir des fois user d'ingéniosité pour recycler des plats de la veille, pour pouvoir nourrir toute la famille. Et cette éducation, je m'en suis imprégné, j'ai grandi avec. Ça, plus l'enseignement des chefs, ça a donné que j'en ai fait mon credo depuis 3 ans.
Oui, donc quelque chose de naturel pour vous, vous en faites aujourd'hui quelque chose presque d'exceptionnel pour des gens qui ont oublié qu'on pouvait recycler les restes quelque part.
Exceptionnel, j'aimerais bien, j'espère. En tout cas, c'est les gens qui en décideront. Mais je pense que si on traite l'anti-gaspi comme une recette tout à fait normal de cuisine, on peut avoir des choses effectivement très, 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 très bonnes.
Alors Emmanuel, vous avez enquêté sur le sujet. Il y a un vrai phénomène anti-gaspi. C'est un marché en pleine effervescence. On le voit partout dans les supermarchés.
Exactement. Et pour le prouver, c'est d'abord les supermarchés. Quand les supermarchés commencent à s'emparer comme ça d'un concept, c'est que c'est un marché. D'ailleurs, dans leurs espaces, dans leur linéaire, ils ont des espaces dédiés à l'anti-gaspi. Il y a même maintenant des sites, on peut citer chez Grand Frais, Montmarché, La Fourche, qui ont tous des sites dédiés. Alors ils proposent dans ces écrans, dans ces sites, des onglets dédiés à l'anti-gaspi avec des produits à date courte, des invendus qui vont varier toutes les semaines. Et puis il y a tous les produits aussi vendus moins chers que leur prix originel, avec des réductions qui parfois s'échelonnent, c'est vrai, jusqu'à 80%. On pourra ajouter toutes les explications dédiées. Je peux citer Too Good To Go et Phoenix, entre autres. Mais je pense qu'il y en a plein.
Alors,
est-ce que c'est bon signe? Toujours la même chose quand le filon... On passe du bon ton au filon, vous savez ce que ça veut dire?
Oui, ça veut dire qu'on exploite un petit peu la, et on tire sur la corde. Olivier, en fait, il l'a dit, Nabil, c'est du bon sens, et c'est même du bon sens paysan, tout simplement, pas gâcher.
En fait, je pense que gâcher, c'est un phénomène qui est très moderne. Si on regarde sur un siècle, par exemple, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, dans les campagnes, personne ne jetait une carcasse de poulet, on ne gaspillait rien. Et c'est cette mode du gaspille, si on peut dire, cette sale mode du gaspille, elle est arrivée dans les années 80-90 avec la surconsommation, avec la grande distribution et avec une sale habitude d'acheter trop par rapport à ce dont on a besoin.
Sur-offre. C'est-à-dire qu'on a fait, il y a trop
d'offres, sur-offre.
Donc
exactement.
Ça développe la demande. Il faudrait peut-être commencer par le commencement.
Vous êtes d'accord avec tout ça, Nabil?
Je rejoins entièrement, j'en parlais il n'y a pas longtemps, je parlais effectivement des grands-parents qui, bizarrement, manquaient moins que nous dans notre période d'inflation et qui, pourtant, gâchaient moins.
Mais jetaient pas le pain.
Et pourtant, on est dans une période d'inflation où on manque plus qu'à l'époque.
Alors, des recettes pour ne pas gaspiller, pour les auditeurs d'Europe 1, qu'est-ce que vous nous proposez là, autour du pain, par exemple?
Autour du pain, il y en a des dizaines
votre
et des centaines.
Panzanella.
La panzanella. Hein les gens vont citer le pain perdu, mais il faut d'abord regarder qu'est-ce que c'est que du pain. De la farine? Voilà. C'est de la farine, de l'eau, de la levure. Donc, si on utilise le pain comme ce qu'il est à partir des ingrédients qui ont été faits, si ce n'est qu'il a été torréfié et cuit, bah on obtient une farine.
Donc on le mixe.
On le mixe, on a une farine qui nous permet de faire des gnocchis, on a une farine qui nous permet de faire des cookies, on a forcément le pain perdu, mais moi ce que je préfère effectivement c'est la panzanella.
Oui, c'est-à-dire cette salade italienne avec des croûtons de pain.
Tout à fait, qui d'ailleurs est empruntée au pain de la veille, parce qu'on utilisait la panzanella pour faire des recettes avec le pain de la veille.
D'ailleurs, vous faites une étonnante glace au pain.
Tout à fait. Alors ça, c'est un peu plus gastronomique. C'est ce que j'ai servi pendant 10 ans. C'était une recette signature. Exactement, glace au pain.
C'est bluffant, ça.
Pain toasté avec, donc pain perdu, glace au pain et caramel de pain. Donc, tout infuse dans une crème liquide mixée à du lait. Cette crème liquide va me servir de base pour faire ma glace, pour déglacer mon caramel. Donc, j'aurai un caramel beurre salé de pain et pour mon petit toast de pain.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Heureux d'être avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. On s'intéresse à la cuisine anti-gaspi ce samedi matin en compagnie de Nabil Zemouri, plus connu encore sous le nom de chef Enzem. Il a sorti un livre, je vous le disais, extraordinaire aux éditions Marabout. Alors, après l'état des lieux de la cuisine anti-gaspi, on va passer aux travaux pratiques, les amis, avec vous, Olivier Pouls et Emmanuel Rubin. Vous ne perdez rien pour attendre. Mais Nabil, vous d'abord, un défi anti-gaspi. On a des amis, des voisins qui débarquent pour un apéro improvisé, c'est le week-end. Hein. Que faire par exemple avec un reste de spaghettis cuites? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Pour un apéro ou pour un repas?
Je dis l'apéro ou le repas, comme vous voulez. Oui.
Alors, moi ça fait partie effectivement des points que j'aborde dans l'anti-gaspi. Quand un plat est déjà prêt, comme des pâtes, si on regarde bien, il faut le traiter comme si on l'avait fait de manière fraîche. Quand on a des spaghettis ou n'importe quelle pâte qui reste, certes elles ont collé, une petite louche d'eau chaude et on prépare sa carbonara ou sa bolognaise à côté et on se récupère. En fait, ce qui est fait n'est plus à faire.
Ah, vous leur donnez carrément une seconde vie.
Cuites, donc ça revient au même. C'est juste qu'elles sont collantes. Et en général, les gens, quand ils les voient collantes comme ça, ils les balancent dans les trucs, ils se disent comment je vais décoller. Mais la louche d'eau chaude. C'est juste l'amidon, la farine qui s'est tout simplement collée. Et donc l'eau est son ennemi. Une petite louche d'eau chaude et ça va lier finalement. D'habitude, on met l'eau de cuisson des pâtes, mais elle est chargée en farine. Là, on met l'eau de cuisson de l'eau bouillante, toute simple. Sans farine.
On
et
peut
ça va
faire une frittata aussi, comme
frittata.
Font nos cousins italiens.
Une frittata, oui.
Avec des œufs, avec des. Là, c'est pas la saison des courgettes, mais avec des épinards, par exemple.
Tout à fait. Et c'est bien croustillant, ça, j'aime beaucoup.
Ouais, c'est
ça.
Sympa. Un paquet de chips entamé, tiens.
Ah, ça, j'adore.
Emmanuel Rubin a souvent ça dans son placard.
C'est vrai, c'est jamais quoi. C'est vrai, j'adore ça.
Alors, écoutez, c'est quoi, goût barbecue?
Ah non,
la totale.
Ah non,
goût truffe, peut-être.
Alors, de beaux arômes de synthèse.
Alors, vous allez être très surpris de ce qu'on peut faire, surtout qu'elles sont un petit peu ramollies. On en fait une tortilla de pommes de terre.
Ah bah oui,
avec ça, parce que ce ne sont que des pommes de terre. Et il faut pas oublier que quand elles vont être mises dans les œufs, il y aura plus ce côté pommes de terre, chips fines séparées. Ouais. Ça va faire finalement un bloc. Et en cuisant, on aura la tortilla classique. Et ça, je le fais très, très, très souvent quand mes chips sont ramollis ou quand je vais chez des amis qui ont des chips
bonne
ramollis.
Idée, ça.
Ça, avec une petite languette de truite fumée au-dessus ou une petite un petit peu de mousse de thon. Et hop, c'est parti.
Alors, les étudiants vous suivent beaucoup sur votre compte Instagram, Chef Enzem. Et les étudiants, on le sait, ils ont un pouvoir d'achat qui est vraiment très, très, très bas. Et c'est compliqué pour de nombreux étudiants. C'est ça qui nous rend dingue aussi, de se nourrir correctement. Il y en a même qui sautent des repas. Qu'est-ce que vous leur répondez aux étudiants qui vous lancent des défis? Quel genre de recettes vous pouvez leur proposer?
Déjà, je leur réponds que je les comprends, parce que je suis le grand frère, moi, d'une longue fratrie, et j'ai tous les petits frères et sœurs qui sont étudiants. Donc, je suis au cœur de ce qu'ils vivent.
Vraie problématique.
Exactement. Je sais ce qu'il y a dans leur frigo, je sais ce qu'ils mangent, à peu près, parce qu'ils m'appellent, Nabil, j'ai ça. Entre frères et sœurs,
pour
rigoler.
Tu peux cuisiner?
Non, mais j'ai pas le temps, parce qu'ils sont quand même assez loin. Mais la première des choses, je sais que souvent, on aime les pâtes au thon quand on est étudiant. Qu'on va chercher les repas moins chers. On peut twister ce genre de choses en faisant quelque chose de très bon et différent de ce qu'on fait d'habitude avec les pâtes au thon. Par exemple, le gruyère, au lieu de le mettre directement sur les pâtes, mettez-le directement sur la poêle. Grande poêle, faites-le toaster. Vous avez une chips d'emmental que vous pouvez poser directement après sur votre pâte à la crème. Et la mousse, enfin le thon, broyez-le à la fourchette avec sa propre huile. Mixez-le, s'il y a un robot, encore mieux. Vous avez une petite mousse sympa que vous allez pouvoir mettre au-dessus de vos pâtes crémées, bien poivrées, parce que le poivre fonctionne très bien avec le fromage.
Mais comment vous travaillez? Comment vous trouvez toutes ces recettes? Vous êtes un laboratoire vivant, comment vous faites? Il y a des tentatives et parfois des échecs.
Ça vient la nuit,
sincèrement.
Mais on en rigole, mais ça m'arrive.
Mais j'imagine.
Ça m'arrive. Ça m'arrive. Alors,
parce qu'il y a de la technique, il y a de l'inspiration. Au bout d'un moment, il faut quand même renouveler le genre.
Je pense qu'il y a surtout de la passion. Je suis énormément passionné de ça. Je suis passionné de la cuisine française, de la culture française et de son histoire. Et par la passion, bah forcément l'intérêt de nous demander des recherches et tout ça. Voilà.
Alors, on vous a lancé un défi, Nabil. Proposer un menu pour une famille de 4 personnes avec un budget de 2 euros par personne. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je dis bien un menu, hein.
Un menu.
Plat et dessert. Quoi.
Un menu, allez, plat, dessert, très très simple. On va partir sur... Partir sur des gnocchis, parce que les gnocchis, c'est la petite
c'est
astuce
beau.
Maligne.
Ah, il est fort.
Les gnocchis, c'est rapide. J'ai 3-4 pommes de terre, ce qui ne coûte pas grand-chose. Je les transforme en une flopée gnocchi, parce que je mets un peu de farine, un œuf, finalement.
Et la farine recyclée dont vous parliez, des restes de pain rassis, par exemple.
Ça peut être le pain. Alors, il faut qu'il soit très bien rassis.
Avec la purée de pommes de terre.
Tout à fait. Et ensuite, on rajoute ce qui traîne un peu dans le frigo, parce que les gnocchis, la pomme de terre, c'est le légume roi, comme disait Joël Robuchon. Et le légume roi, il voyage. On peut l'accommoder avec tout ce qu'on veut. Des champignons, du poulet, des lardons, du fromage.
Voilà. C'est une sauce fromagère, je vois autour, là.
Ça, et encore mieux, vous savez quoi? C'est une sauce aux croûtes de parmesan. C'est-à-dire, il n'y a même pas de parmesan dedans. C'est mes croûtes que j'ai infusées
dans la crème.
Tout à fait. 24 heures avance. Hop, j'avais plus de fromage. Allez, hop, c'est pas cher, les enfants. Jetez plus vos croûtes. Faites ça infuser.
Vous me faites penser à Bernard Loiseau quand vous parlez
mais
comme ça.
Mais c'est vrai. Hein, ah bon, mais oui. Il a un petit accent là, du bourbonnais.
J'ai bien répété alors hier, je suis content.
Non, dans la façon de parler, c'est amusant. Regardez,
il a le même débit.
Oui, le même débit, c'est ça. Regardez, chers auditeurs d'Europe 1, sur le site, ce beau plat qu'il nous a préparé, Nabil Zemouri, chef Enzem. C'est gnocchi de restants de purée de pommes de terre et de farine, une belle sauce aux croûtes de parmesan et des lamelles de champignons de Paris par-dessus.
Cru avec une petite huile d'olive origan, fleur de sel et c'est réglé.
Vous êtes fort. Et en sucré, alors, comme il faut toujours terminer sur une note sucrée.
C'est
délicieux.
Ça a été fait très 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 rapidement, donc c'est express.
C'est très 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 bon.
Oh, bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.
Mais c'est vrai en plus. Hein.
Ah, bien sûr. Ah, bah, non, on dit, avec un critique gastronomique comme Emmanuel Rubin, il fera pas dans la dentelle. Hein, s'il aime pas.
On l'a entendu tout à l'heure quand il est pas content, il le dit.
Hein. Oui, mais ça, on me sert ça au restaurant. Moi, je ne vois pas que c'est une cuisine des restes. C'est ça aussi qui est merveilleux.
Exactement.
C'est qu'à l'arrivée, on me sert ça à l'aveugle,
vous avez
à
raison.
Table, chez moi. À aucun moment, pour moi, il y a des restes là.
Ah, ça me fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir.
Le dessert,
pareil, un peu d'astuce, un peu d'ingéniosité. Vous avez 4 pommes, 3 pommes. Allez, 3 pommes, on est 4. 3 pommes Granny Smith, la verte, c'est l'acidulée. Les deux premières sur les pommes partent en compote. Mm-hmm. Sans le trognon, juste la chair, compote. Voilà, petite compote. Et la dernière pomme, la troisième, elle va être taillée en brunoise.
Oui.
Taillée en brunoise. Zeste de citron vert, jus de citron vert. On a une compote qu'on étale sur l'assiette bien fraîche. On rajoute notre brunoise de pomme à côté au-dessus pour un jeu de texture. L'acidité du citron vert avec son zeste qui va ramener quelque chose encore, un petit peps. Et la petite astuce, un petit poivre de Timut si on a, ou un poivre classique, ça marche très bien. Petit filet d'huile d'olive et on se régale.
Il est fort, il s'appelle Chef Enzem. Il est dans la place sur Instagram et au studio Coluche ce samedi matin. Avant de jouer avec notre bruit de cuisine et un auditeur d'Europe 1, et bien justement, les correspondants d'Europe 1 nous ont donné leurs bonnes adresses partout en France. Des adresses anti-gaspi. On va commencer dans l'Ouest avec les adresses de Charles Guyard et Sandrine Prioul. Il y a Nous anti-gaspi, c'est une épicerie à Dinard. La table anti-gaspi à l'entrée du magasin. Nous anti-gaspi. Voilà, ça, pensez-y. Olivier.
Oui, à Marseille, dans sa région, évidemment, Stéphane Burgat, le correspondant de l'Europe 1, nous parle de Primeur Île aux Verts, qui est un lieu dédié, on en parlait tout à l'heure, hein, aux fruits et aux légumes abîmés qu'il faut consommer.
On prend Emmanuel Rubin.
Dans le Nord, Lionel Gougelot, ne présente plus Lionel Gougelot.
On salue, absolument.
Il nous présente l'association La Tente des Glaneurs. Alors, c'est une association qui récupère tous les invendus alimentaires, ceux du marché de Vazem, c'est près de Lille, c'est à Lille même. Et pourquoi? Eh bien, pour les redistribuer gratuitement à la fin du marché aux personnes modestes ou en difficulté. Alors là, c'est une association, mais vous savez que ça se fait encore, beaucoup d'étals le proposent dans les marchés.
Eh bien, on prend. Merci Nabil Zemouri d'être venu à la table des bons vivants. Chef Enzem sur les réseaux sociaux et en librairie aussi avec Extraordinaire. Transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire chez Marabout. Et vous restez avec nous puisque c'est vous qui allez cuisiner le plat du jour anti-gaspi pour Philippe Claudel.
Tout à fait.
Voilà,
tout
c'est, à fait. C'est un Lorrain. Il a été élevé dans la culture paysanne. Lui aussi, on ne jette rien, on ne gâche rien. Donc, on est heureux de vous le présenter dans un instant. Pour l'instant, c'est l'heure de jouer à notre bruit de cuisine sur Europe 1. Nous vous offrons la machine à espresso Espressa de Séverin pour préparer un espresso aromatique. aromatique ou un cappuccino classique comme un vrai barista. Elle est équipée d'une pompe de 15 bars et de 3 inserts. Elle permet d'utiliser du café moulu ou des dosettes. C'est l'Espressa de Séverin et c'est Céline avec nous qui va jouer pour tenter de la gagner. Bonjour Céline.
Bonjour Laurent, bonjour, bonjour. L'équipe des bons vivants. Bonjour.
Dis-moi Céline, d'où nous appelles-tu? D'où nous appelez-vous?
Alors moi j'appelle de Hondres, une petite ville sur la côte landaise à un quart d'heure au-dessus de Bayonne.
Ah, je connais, avec une plage magnifique, une très
exactement.
Grande piste cyclable qui va du cœur du village jusqu'à la plage.
Et, oui.
Hein, et sur la plage, comment il s'appelle le restaurant? La plancha du
la
pêcheur.
La plancha du pêcheur.
C'est ça.
Exactement.
On a les mêmes adresses.
Incollable.
Ah non, j'adore la côte landaise. Allez-vous
bah,
balader.
Évidemment que c'est magnifique.
Quand vous voulez prendre un grand shot de diode, il faut aller sur cette belle côte. On écoute le bruit de cuisine, chère Céline. C'est pas un moulin à café, c'est pas un moulin à légumes. Alors, qu'est-ce que c'est, Céline?
Alors, moi, j'aurais bien dit un moulin poivre-sel.
Ah, le moulin poivre-sel. Qui fait les deux, vous voulez dire, ou qui fait que...
Moulin poivre.
D'accord.
Ou sel. Enfin,
ah oui, les gros moulins en bois, comme les Peugeot, oui.
Eh ben ouais, exactement.
C'est pas ça, Céline. C'est pas ça.
Bon, tant pis.
Mais vous n'avez pas tout perdu. Je vous envoie ma revue Les Petits Plats et on vous envoie également le roman de notre invité qui arrive dans un instant, Rature, de Philippe Claudel, qui vient de paraître chez Stock. Vous aurez de la lecture à Hondres.
Mais c'est super sympa, merci.